Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Castleman et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-François Vialard. Professeur Vialard, bonjour.
Bonjour.
Professeur Vialard, vous êtes professeur des universités à la faculté de médecine de Bordeaux et praticien hospitalier, chef du service de médecine interne et maladies infectieuses à l'hôpital Aulévêque du CHU de Bordeaux. Vous êtes également impliqué dans la prise en charge de la maladie de Castleman puisque vous êtes membre du groupe de travail multidisciplinaire coordonné par le professeur Oxen Endler qui a élaboré le récent PNDS sur la maladie de Castleman. Alors, professeur Vialard, ma première question, c'est à l'interniste que je souhaiterais la poser. On sait que la maladie de Castleman, notamment dans sa forme multicentrique idiopathique, est une maladie rare. Et dans un contexte de médecine interne où vous rencontrez de très nombreuses pathologies, comment y penser et quels sont les signes d'alerte à privilégier ?
Oui, alors la maladie de Castleman multicentrique idiopathique n'est pas une simple pathologie tumorale équivalente à une sorte de lymphome un peu original qui se manifesterait uniquement par des adénopathies. C'est une pathologie beaucoup plus complexe, aux multiples facettes et qui en fait une véritable maladie de système. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les internistes sont souvent amenés à évoquer cette maladie quand ils discutent de diagnostic différentiel et les patients sont souvent diagnostiqués en médecine interne. Alors la maladie de Castleman multicentrique idiopathique peut mimer une maladie de système, telle qu'un lupus, une maladie de Still par exemple, mais peut aussi se présenter ou se compliquer de maladies auto-immunes, comme les cytopénies auto-immunes ou des maladies pulmonaires telles qu'une pneumopathie interstitielle lymphoïde par exemple. Il existe aussi des formes pédiatriques, et chez l'enfant, l'arrêt de croissance staturopondérale est un bon signe d'appel qui est souligné par les pédiatres. Et enfin, j'ajoute que c'est une maladie très inflammatoire et qui peut aussi être diagnostiquée au cours de l'exploration d'un syndrome inflammatoire. Donc on voit que le spectre est très large, ce qui en fait typiquement une maladie interniste.
Effectivement, on voit que cette maladie de Castleman peut être d'expression assez variable. Et vous évoquiez à l'instant quelques diagnostics différentiels à envisager. Alors justement, quels sont les plus fréquents à écarter ?
Alors, en dehors des diagnostics différentiels hématologiques, comme le lymphome, mais qui ont déjà été abordés par mon collègue le professeur Gian dans le premier podcast, la maladie de Castleman peut prendre le masque de différentes pathologies, notamment les formes plasmocytaires multicentriques idiopathiques, et y compris sur le plan histologique, avec des adénopathies qui peuvent parfois présenter des lésions qui ressemblent à celles qu'on observe dans la maladie de Castleman. Alors, brièvement, on distinguera les maladies auto-immunes avec en priorité le lupus érythémato-systémique. Alors si le diagnostic de lupus est établi, celui de maladie de Castleman est alors écarté. Mais en revanche, la simple positivité des anticorps antinucléaires ne constitue pas un critère d'exclusion. Ensuite, il y a le chapitre des maladies auto-inflammatoires avec en priorité la maladie de Still de l'adulte. Une entité plus récente qui est la maladie des IgG4, où il y a des plasmocytes sur la biopsie, et c'est un diagnostic maintenant qui est régulièrement discuté. Bien sûr, il y a le chapitre des infections virales, telles que les infections Epstein-Barr virus, le cytomegalovirus, surtout lorsqu'elles se compliquent de manifestations hématologiques comme un syndrome d'activation macrophagique. Et la recherche de ces virus fait partie de l'enquête étiologique lorsqu'on suspecte une maladie de Castleman. Et enfin, de façon plus anecdotique, il y a certains déficits immunitaires constitutionnels tels que les ALPS qui peuvent mimer une maladie de Castleman.
Très bien. Dans ce contexte, on imagine que plusieurs types d'examens peuvent être nécessaires pour confirmer le diagnostic de la maladie de Castleman. Alors, quels sont ces examens, professeur Vialard ?
Alors, il y a certains examens biologiques, bien sûr, qui vont être utiles dans l'enquête étiologique. Je pense par exemple au PCR viral, à la recherche d'anticorps spécifiques. Mais c'est bien sûr l'analyse histologique d'un ganglion qui permet de porter le diagnostic de maladie de Castleman. Alors, s'il n'y a pas d'imagerie spécifique d'une maladie de Castleman, on réalise généralement un TEP scanner avant de faire la biopsie, car ça permet de cibler l'endénopathie à prélever, et en général, on prélève celle qui est la plus accessible avec l'index de fixation le plus fort. Enfin, il y a une forme particulière qu'on appelle le Tafro syndrome, qui se caractérise par une fibrose médulaire, et dans ces cas-là, il est nécessaire de réaliser une biopsie ostéomédulaire.
On vient de voir ensemble que dans la maladie de Castleman, la symptomatologie n'est pas très spécifique, que certains diagnostics différentiels sont importants à écarter et que finalement, c'est l'analyse histologique qui permet véritablement de poser le diagnostic. Alors maintenant, se pose une question qu'on retrouve dans de nombreuses maladies rares, c'est comment limiter au mieux l'errance diagnostique et comment faire en sorte de diagnostiquer et de prendre en charge le plus tôt possible ces patients touchés par la maladie de Castleman.
Alors grâce au plan maladies rares, un réseau d'experts a pu voir le jour en France avec un centre de référence qui est dirigé par le professeur Eric Oxenhundler à l'hôpital Saint-Louis à Paris et des centres dits de compétences qui sont présents sur l'ensemble du territoire, ce qui permet d'avoir recours à un expert dans presque chaque grande région française. Alors en général, les dossiers des patients sont discutés en RCP, soit la RCP du centre d'experts, mais le plus souvent avec le centre de référence parisien, et quasiment tous les malades sont discutés étant donné la rareté de la maladie. J'ajoute qu'il est parfois nécessaire de refaire une relecture anatomopathologique par un centre spécialisé. Il ne faut pas hésiter à renvoyer les prélèvements anatomopathologiques pour relecture. À titre d'exemple, récemment, on a eu un patient polynésien qui, depuis 2 ans, faisait des cytopénies auto-immunes itératives, avait des épanchements pleuraux et des lésions nodulaires violacées du tronc qui avaient été biopsiées sur lesquelles il y avait une plasmocytose. Mais le diagnostic de maladie de Castleman n'était pas formel. Eh bien, les lames ont été renvoyées à Paris, le dossier a été discuté avec le centre parisien et même un centre australien d'experts. Et finalement, le diagnostic de maladie de Castleman multicentrique, dans sa forme polynésienne, qui est une forme particulière, a été retenu et le patient a pu débuter un traitement approprié. On voit donc qu'il ne faut pas hésiter à faire appel au réseau d'experts quand on prend en charge une maladie de Castleman. Et ce réseau appartient à la filière MARI, filière des maladies rares en immunomatologie, et a permis la rédaction et la diffusion d'un protocole national de soins.
Alors justement, professeur Vialard, vous avez participé à l'élaboration de ce PNDS. Comment est-ce qu'il a été conçu et quelles en sont les principales conclusions ?
Alors à la demande de l'HAS et grâce à la création du centre de référence et du réseau d'experts, ça a permis effectivement de mettre au point ce PNDS qui a été rédigé et diffusé par un ensemble d'experts, de spécialistes, qu'ils soient hématologues, internistes, pédiatres, immunologistes, mais aussi anatomopathologistes. Et ce PNDS est disponible gratuitement sur le site de l'HAS en recherchant PNDS Castleman dans n'importe quel moteur de recherche. Alors, c'est une synthèse des connaissances actuelles sur la maladie de Castleman dans toutes ses formes, formes unicentriques, multicentriques, associé ou pas au HHV8, au VIH, et bien sûr la forme multicentrique idiopathique. Donc globalement, il résume les différentes présentations cliniques, les diagnostics différentiels envisagés, la démarche diagnostique, les examens à pratiquer, les complications qui peuvent survenir, et il détaille les différents aspects histologiques de la maladie. Et enfin, il y a un chapitre thérapeutique très développé, où tous les schémas à adopter sont précisés en fonction du type histologique, en fonction de la classification de la maladie et de la positivité ou pas des virus. Les différents traitements utilisés sont détaillés, ainsi que leurs principales complications, et un chapitre spécifique à la pédiatrie et à la transition enfant-adulte a été élaboré. Donc c'est un outil complet, actualisé, qui fait référence et qui peut être adossé à chaque décision de RCP.
Eh bien, merci infiniment, professeur Vialard, de nous avoir permis de mieux connaître cette maladie de Castleman, notamment du point de vue de la médecine interne.
Et merci à vous.
Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes dédiés à la maladie de Castleman. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie. À très vite.